Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Le grand débat enflammé, je vous préviens, parce que ça commence, quand ça commence comme ça pendant la pub, c'est bon signe. Allez, on est avec Carole Juge-Lewelling, CEO et fondatrice de June, Hervé Gouletker, conseiller économique du cabinet Accuracy, François-Mickey Marty, président de ViaVoice, et puis Marie-Cœur de Roy qui nous apporte des nouvelles sur le front de l'immobilier. Mais on va commencer par la succession de la famille Arnault, avec Delphine, qui a été placé à la tête de Dior, après Antoine, qui avait été placé à la tête d'une des holdings familiales il y a un mois. Je sais que ça vous inspire, Carole.
Ben, en fait, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, notamment pour la passion que ça déchaîne. Il y a eu, il y a 3 semaines, un article en couverture de New York Magazine sur ce qu'on appelle les Nepo Babies, qui est en gros les fils d'eux dans le domaine d'Hollywood. Ah oui. Et il y a un espèce de mouvement uniforme, médiatique, social, où on se scandalise du fait que des fils d'eux réussissent. Mais l'égalité des chance n'enlève pas l'inégalité des opportunités. Quand vous êtes né avec un parent qui fait du business ou avec un parent qui est Johnny Depp et que votre maman est Vanessa Paradis, vous appelez Lily Rose Depp, bah vous finissez dans une campagne de Chanel. Mmh. Et il n'y a pas de caractère d'injustice. L'injustice, c'est la mort, la maladie. Mais le fait de transmettre quelque chose à son enfant, ça n'est pas injuste. Et dans le business, c'est encore pire. Ça a systématiquement existé. Vous avez un artisan boulanger, vous avez un patron de PME. J'ai grandi en Auvergne. Il y a plein de patrons de PME, ils aspirent à transmettre leur entreprise à leurs enfants. Alors, pourquoi ça choque quand c'est un patron d'une petite PME en Auvergne? Pourquoi ça choque pas quand c'est ce cas-là? Et pourquoi ça choque quand c'est Bernard Arnault qui met sa fille, qui a quand même 50 ans, énormément d'expérience, très brillante, à la tête d'une de ces boîtes?
Il fait très attention quand même, Bernard Arnault, à faire monter à la fois des gens de l'extérieur et à la fois des gens clair. De la famille. Hein. Systématiquement, il y a les deux.
Mais c'est ça, parce que là, le mouvement de Delphine Arnault à la tête de Dior coïncide avec le mouvement de l'ancien patron de Dior sur une autre boîte qui n'est pas quelqu'un de la famille. Ouais. Donc, je trouve ça, et ça, je trouve que c'est un peu perturbant, parce que quand il a nommé son autre fils à la tête de Tiffany, on en a parlé un peu, mais moins que là. Et je sais pas si là, on en parle, parce que finalement, Delphine, c'est une femme, ou j'arrive pas à savoir.
Alors, d'abord, ici ça ne nous choque pas, on en parle parce que c'est un événement business. Deuxièmement, on en a beaucoup parlé de Tiffany, sauf que là, c'est la plus grosse. Enfin, Dior, avec Vuitton, c'est la plus grosse marque du groupe.
Donc, mais Delphine est la plus expérimentée, c'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin, c'est parce que Bernard Arnault, un, il a mis Antoine à la tête de la holding familiale, et deux, il met sa fille, Delphine, à la tête de la boîte avec quoi il a tout commencé. Il a construit l'empire. Donc, c'est forcément. D'abord, c'est les deux plus âgés dans la fratrie, c'est pas anodin. Mais justement, on va poser la question à François-Mickey Marty pour ViaVoice. L'opinion, c'est quelque chose qui, je sais pas si vous avez sondé ça récemment, mais qui la choque effectivement ou pas. Ces successions familiales, ces sagas familiales dont parle Carole.
Ce qui est intéressant, et en particulier, je rejoins ce que vous dites sur le côté très singulier de ces évolutions-là. Ce qui est intéressant, au fond, c'est l'idée selon laquelle on a une famille, une entreprise, un groupe qui porte à la fois sur des questions de pouvoir, sur des questions de capital. Et c'est vrai que Bernard Arnault, avec beaucoup de doigté depuis longtemps, évolue vers cette évolution-là. Et en même temps aussi sur une incarnation du luxe et de la France.
Ouais. Et c'est aussi la première entreprise européenne. Exactement. 390 milliards de capitalisation boursière hier soir.
Aussi. Donc vous parliez de perception d'opinion. LVMH, c'est considéré comme une entreprise phare. Et Bernard Arnault lui-même est considéré comme l'un des meilleurs ambassadeurs de la France à l'international, etc. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous avez un alignement presque parfait entre les produits, les marques, le groupe et Bernard Arnault lui-même. Donc se pose une question, et pas une question de transmission au sens managérial ou capitalistique, mais aussi d'identification à la marque, d'identification. On a là plusieurs enfants. Mmh. Alors on peut pressentir que Antoine est peut-être plus privilégié que les autres, je ne sais pas. Mais enfin, il y a un sujet pour l'avenir qui est véritablement non pas uniquement un sujet de management ou un sujet de capital, mais aussi un sujet d'identification à la marque, et on peut dire au-delà un sujet d'ambassadeur des entreprises françaises sur la scène internationale. La transmission, elle est particulièrement redoutable à réaliser dans ce contexte.
Carole.
Tu as dit le mot clé, le mot c'est privilège, et je pense que ce qui choque un peu ou ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un sujet, c'est justement cette notion de privilège. C'est quelque chose qui est vraiment un mouvement très très fort aux États-Unis.
C'est plus facile d'être né avec une guerre d'argent dans la bouche
Évidemment, mais on en revient toujours à L'héritage est-il une bonne chose? Est-ce qu'un bon PDG de start-up est un meilleur PDG parce qu'il a galéré? J'ai fait les deux métiers. J'ai été comédienne dans ma vie d'avant, je dirige l'entreprise. Je n'avais réseau ni à droite ni à gauche. Ouais. Donc quand on doit construire ces doubles réseaux, forcément on galère plus. Est-ce qu'à la fin, ça a fait de moi une meilleure actrice ou une meilleure chef d'entreprise? J'en sais rien. Mais je trouve ça injuste quelque ouais. part de se dire au final, quelqu'un qui a ce privilège-là d'avoir cet héritage-là ne le mérite pas. Sinon, dans ce cas-là, on enlève complètement la question d'héritage et dans ce cas-là, on ne permet plus aux gens d'hériter. Alors que c'est une grande fierté ouais. pour beaucoup de gens d'avoir cette transmission.
D'ailleurs, c'est ce que pense Bernard Arnault, parce que quand on l'interroge ou quand des proches nous rapportent ses propos sur ses enfants, il dit « je les mets tous les cinq dans la piscine et je regarde comment ils se débrouillent nager ». Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes né Arnault que vous aurez tous les privilèges. Alors, Hervé Goulet, il y a quand même ce capitalisme familial à la française qui est une structure importante de notre économie. Hein.
Alors, si on raisonne en économiste, on va dire les patrimoines appartenant à des familles créent de la stabilité, permettent de voir à long terme et finalement, ça autorise peut-être un développement plus serein.
Et parfois une part de risque plus forte, parce qu'il y a quand même, ils nous le disent, hein, pendant la crise, les patrons d'entreprises familiales, les ETI familiales nous ont dit... Qu'est-ce qu'on était content d'avoir un actionnariat familial?
Et c'est vrai. Et dans ce cas-là, on oppose le capitalisme actionnarial au capitalisme avec contrôle par une famille. Alors, dans l'histoire de l'économie, il y a eu quand même un balancement. À un moment, on a dit les entreprises contrôlées par des familles, c'est des logiques de rente. Finalement, ils finissent par s'endormir, c'est pas bon. Alors que le capitalisme actionnarial, finalement, qui est pressé par les événements... Cela oblige à réagir et c'est plus efficace. Puis à d'autres moments, quand on voit les excès du capitalisme actionnarial, on trouve que le capitalisme de famille, c'est mieux. Donc en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'on voit, c'est que il y a des capitalismes d'une sorte ou de l'autre qui marchent bien à différents moments, parce que ça dépend à la fois de chacune de ces caractéristiques microéconomiques et de l'environnement dans lequel on est. Il faut se souvenir des entreprises, des PME italiennes, très familiales, qui ont très bien fonctionné dans les années 60, 70, encore 80. Et puis après, avec la mondialisation, une accentuation de la concurrence sur leur marché, ça a été moins bien, parce que leur capacité de réaction était plus faible. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Moi, j'avais juste envie de répondre à madame.
Carole, ouais.
En fait, le patrimoine, hein, il est financier. L'État s'y intéresse, le taxe d'ailleurs. Il y a un patrimoine relationnel, il y a un patrimoine culturel. Là, on est dans le patrimoine relationnel. Hein. Je suis fils d'eux et donc je prends des responsabilités. Voilà. Est-ce que la collectivité doit avoir un regard là-dessus? J'en ai aucune idée, mais la notion de patrimoine, c'est à spectre large et donc il faut s'interroger sur comment collectivement on réagit par rapport à ces différents éléments patrimoniaux.
C'est très intéressant ce que vous dites, Hervé, parce que quand même, François, Mickey Marty, dans l'histoire, dans le mouvement d'opinion, rappelez-vous, au début du siècle, les 200 familles qui étaient au départ les 200 actionnaires de la Banque de France, puis qui étaient devenus qu'on a stigmatisé à un moment donné, notamment dans les années 20 et 30, les mouvements extrêmes, que ce soit d'extrême droite ou le Parti communiste, s'en prenaient à ses héritiers.
Bien sûr. Je crois qu'on est sur une ambivalence parfaite avec l'idée du capitalisme familial. C'est-à-dire, on est à la fois, en effet, celui d'une famille, donc quelque chose qui rassure. D'ailleurs, Bernard Arnault joue sur cette fibre-là de manière remarquable. Mmh. Présente, en effet, LVMH comme une entreprise familiale. Il le dit à plusieurs reprises. Bon. Et en même temps, parce que, en effet, on a une concentration, inévitablement, sur une famille, sur des héritiers, ça suscite des inquiétudes, des interrogations et des questions en termes de légitimité. Mais les deux vont de pair, d'une certaine manière. Il y a à la fois la question de la légitimité dont vous parlez très bien, et puis en même temps, d'une certaine manière, une forme de confiance qui est liée au fait que là, on a une famille, et d'une certaine manière, ça sous-entend qu'on limite la prise de risque. Voilà, si dans le cas de LVMH, c'est très éloigné. Mais enfin, c'est pas grave, ça raconte une histoire.
Et c'est vrai que là, ce que fait Bernard Arnault, c'est justement de rassurer les investisseurs, qui sont parce qu'ils sont aussi des côtés, hein, et de rassurer les investisseurs sur le fait que cette solidité familiale, elle va être elle ira au-delà de lui.
Je ne suis pas tout à fait sûre que les investisseurs d'LVMH aient besoin d'être rassurés. C'est quand même une des valeurs qui est les plus stables.
D'être rassuré sur l'après Bernard Arnault, je pense que si, quand même.
Oui, mais...
Parce que son génie créatif d'entrepreneur, c'est aussi pour ça que les gens ont investi dans LVMH et c'est aussi pour ça que LVMH a fonctionné, quand même. Carole.
Non, je suis d'accord et je pense que ça participe aussi à pourquoi il a envie de placer ses enfants, mais il place pas ses enfants, il prend pas les enfants qui font des trucs complètement qui n'ont rien à voir, et il les met à la tête de Dior. C'est ça l'enjeu, je pense que depuis qu'ils sont jeunes, ils grandissent dans cet environnement très business, ils ont une compréhension des affaires, du monde du business qui, je pense, est extrêmement fine parce qu'ils grandissent là-dedans. Et pour reprendre ce que vous disiez sur les fameuses 200 familles, je pense que l'ascenseur social n'est absolument pas cassé. Des chefs d'entreprise comme moi, il y en a de plus en plus, des gens qui viennent de nulle part, sans patrimoine, sans réseau, et qui a réussi à construire des entreprises. Donc, il y a absolument pas c'est pas parce qu'on a quelques familles un peu puissantes que derrière, tout est figé. Pas du tout.
Allez, on va changer de sujet, on va faire de l'immobilier, ça intéresse tout le monde. Marie, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la hausse des taux, à la fois des taux d'intérêt, mais aussi du taux d'usure, puisque le taux d'usure, on va pouvoir le réviser plus souvent, sans doute tous les mois, on va voir ce qui va sortir de cette réunion qui a eu lieu hier, entre les intervenants du marché. Est-ce que c'est grave, docteur, si le taux d'usure s'envole tous les mois?
Non, mais c'est une bonne nouvelle, youpi Christophe. Alors, non, et attention, pourquoi? Parce qu'on avait des blocages, en fait, du marché immobilier. C'est-à-dire, aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir si vous allez payer plus cher votre crédit immobilier, vous allez le payer plus cher. Le sujet, c'était, est-ce que je vais même l'avoir, mon crédit immobilier? De toute façon, compte tenu du niveau d'inflation, c'est le sens de l'histoire, on va payer plus cher notre crédit immobilier. Maintenant, ce taux d'usure qui était calculé de manière trimestrielle, il était complètement à côté de la plaque, compte tenu du fait que les coûts de refinancement des banques, eux, ils augmentent quasi quotidiennement. Donc, on ne peut pas d'un côté dire aux banques, vous avez des coûts qui s'accumulent et qui sont bouleversés quasi quotidiennement, et parallèlement, vous ne pouvez pas le répercuter sur l'emprunteur en temps réel. Donc, cette mensualisation du taux d'usure, finalement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on n'aura plus ces mouvements de stop and go. C'est-à-dire, on avait un début de trimestre où, bim, tous les courtiers, tous les banquiers faisaient passer les dossiers, puis fin de trimestre, il ne se passe plus rien. Et ça, depuis le retour de l'été 2022. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle.
Normalisation, mais hausse des taux, du coup.
Alors, ça veut dire quoi? C'est libérer, délivrer, vous le disiez tout à l'heure, hein, Christophe, effectivement, pour les banques.
Mais c'est normal.
Eh bien, oui, c'est logique. Mais encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Mais oui, effectivement, ça veut dire quoi? La conséquence directe, les banques vont pouvoir augmenter plus régulièrement les taux d'intérêt, donc ça va aller plus vite, mais ça ne sera pas plus fort. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va bouleverser les choses, puisque le mode de calcul en soi n'a pas changé du taux d'usure. En revanche, effectivement, c'est le rythme. Je vous le disais toute la matinée, en fait, l'idée, c'est de dire, au lieu de faire un énorme pas tous les trois mois, on fait un petit pas chaque mois. Donc, oui, effectivement, ça veut dire 3,5-4% au printemps au lieu de l'été. C'est pas si dingue, hein, parce qu'au moment où l'inflation était dans l'ordre de celle qu'on connaît aujourd'hui, on était déjà autour de 3,5-4% de taux d'intérêt à l'époque.
Hervé Gouletker, l'immobilier indicateur avancé, il y a toujours cette question de savoir bulle ou pas bulle.
Oui, moi j'ai envie de...
Marie dit pas bulle.
J'ai envie de dire trois choses. Enfin, bulle ou pas bulle, les prix sont élevés et quand vous cumulez ça avec des taux d'intérêt qui montent et un pouvoir d'achat en berne, ça vous envoie pas un message très sympathique sur la dynamique de l'immobilier. Ça c'est juste factuel. Après, il y a deux autres éléments derrière. Un élément macroéconomique. Quand vous êtes dans un environnement où sur l'immobilier, ça risque de ne pas être terrible et un moment où les profits pourraient être en berne, quand vous avez ces deux clignotants en même temps pour la dynamique de l'activité, c'est pas très bon. Et puis après, il y a le cycle plus financier. En fait, la dynamique financière, on l'oublie souvent, mais quand vous avez à la fois des crédits qui ralentissent et puis un prix de l'immobilier qui baisse, ça envoie tout de même un pas bon message sur le cycle financier et donc sur le financement de l'économie, et ça rebondit sur la macro.
Alors le prix de l'immo, il y a débat, hein, parce qu'effectivement on sait que l'offre et la demande pour l'instant, c'est encore du côté de l'offre que c'est tendu et que donc les prix ne baissent pas vraiment. Marie, pour l'instant, est-ce qu'il y a un crack en vue sur l'immo?
Alors il n'y aura pas de crack, il y aura un ralentissement des prix, mais ça c'est une certitude. Alors là pour le coup j'en mets ma main, voire mes deux mains à couper.
Non, gardez-en une.
Au pire j'aurais mes pieds. Globalement, oui, on va avoir une baisse des prix. Après, il n'y aura pas d'effondrement total. Très clairement, ce sera une correction. Il n'y a pas de bulle. Non, il n'y a pas de bulle. Au sens national. Par contre, localement, moi, je m'interroge et vraiment sur ces villes moyennes et un peu grandes qui ont accusé des hausses de prix à deux chiffres et qui n'ont pas le tissu des entreprises. Mais on en a beaucoup parlé, hein, le dynamisme économique qui va avec. Paris, c'est pas Perpignan et c'est pas désagréable pour ceux qui vivent à Perpignan. C'est juste de dire, à un moment donné, comment on justifie de tels niveaux de prix aujourd'hui. Donc moi, ça, c'est ma crainte. Donc pas de bulles, mais des petites bulettes, peut-être.
François-Mickey Marty.
Oui, non, ce qui est très intéressant, enfin, si je peux me permettre, pour rebondir sur ces éléments économiques et financier, on voit bien l'ampleur des contraintes qui pèsent et que vous rappeliez très justement. En parallèle de ça, en grande tendance, on a une aspiration très forte à l'accès à la propriété. On entend les gens dire « Ah, mais on est dans un monde de mobilité, les gens n'ont plus envie de propriété ». En réalité, c'est totalement faux. Dans la durée, on a aujourd'hui quand même 57-58% des Français qui sont propriétaires, ça plafonne depuis une vingtaine d'années, et depuis la période Covid, on a une aspiration croissante. On a aujourd'hui 22% des Français qui déclarent avoir l'intention de déménager, ou l'envie de déménager dans les trois ans qui viennent. Et tenez-vous bien, quel est le premier argument? pas un argument financier. C'est être d'abord vivre ailleurs et puis surtout être propriétaire de ces murs, être dans ces murs. Donc on a au fond un effet de ciseau entre des contraintes financières et en même temps une réalité culturelle qui évolue.
Carole.
Je vais me faire le porte-parole des gens qui ont moins de 25 ans, même si j'ai malheureusement plus de 25 ans.
Mais non.
La propriété, ils en ont rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre, quoi.
Je suis pas d'accord.
Puisqu'on se rend compte de ce mouvement-là où finalement la jeunesse a un regard très dynamique et toutes les analyses générationnelles, que ce soit aux États-Unis, aux États-Unis ou en Europe, disent en fait, il y a un mouvement réfractaire par rapport à la propriété, parce que les gens vivent dans une manière différente de consommer du bien, consommer de la voiture. C'est pour ça que les gens de notre génération se disent « Oh, partager ma voiture, ça m'emmerde ». Les gens de la génération qui est derrière nous, ils potentiellement ne connaîtront pas.
Je suis pas d'accord parce que c'est pas la même propriété. C'est-à-dire qu'effectivement, ils préfèrent user plutôt que d'acheter pour eux-mêmes. En revanche, ils placent leur argent. Et donc, ils font de l'investissement locatif. Vous avez tout un tas
de locataires. Ils font de la crypto, ils font d'autres choses.
Non, l'appétit pour l'immobilier.
Alors, je suis désolée, il y a beaucoup plus de capitalisation crypto chez les jeunes Américains qu'on peut en avoir sur de la capitalisation boursière. Donc, il faut quand même garder l'esprit ouvert. Ce qui se passe en France ne se passe pas partout dans le monde. Et je suis désolée, aujourd'hui les jeunes n'investissent pas majoritairement dans l'immobilier.
Un mot Hervé Goulet-Kerr de la croissance mondiale et la croissance française. On était avec le directeur des études économiques de COFAS. Il était pas exagérément optimiste ou plutôt pas trop pessimiste. Enfin, il n'était pas non plus sur une vision de la croissance très très optimiste.
À long terme, il était même pessimiste finalement.
Alors, moi j'ai envie de dire que en fait, on est à un moment où, quand on voit les chiffres, quand on extrapole les chiffres, oui, c'est gloomy. C'est pas très sympathique. On est dans quelque chose qui est autour de zéro, sans qu'on sache très bien si on est au-dessus ou en dessous. Mais je pense que le moment que l'on vit est un moment assez illisible. Parce que commencer l'histoire en disant « je regarde les indicateurs conjoncturels, je les extrapole », mais qu'est-ce qui va se passer à l'est de l'Europe demain ? On n'en sait rien. La Chine, il y a sa dimension économique intérieure, il y a les initiatives à l'extérieur que la Chine pourrait prendre, et sur tous ces éléments absolument fondamentaux, on ne sait pas. Donc le scénario central, c'est vrai, c'est autour de zéro, mais la probabilité que l'on donne à ce scénario central, elle est aujourd'hui exceptionnellement faible. Donc il faudrait aussi regarder les scénarios alternatifs, et c'est là où on a raison d'être un peu pessimiste. On accorderait plus de poids au scénario alternatif baissier, en se disant, l'inflation va être plus durable, les banques centrales vont en faire trop dans un environnement international plus compliqué. Et dans ce cas-là, ça nous fabrique des chiffres encore plus faibles. Donc, les scénarios centraux, il faut s'en méfier aujourd'hui parce que c'est illisible.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre avec nous.